Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Bon Jouir. Ça y est, Bon Jouir a réintégré sa case dans la grille des programmes de Canal B. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour votre dernière heure de votre week-end, votre dernière heure de ce dimanche, et que nous puissions la passer ensemble. Après 1h30 justement de métal de tout poil, il est désormais temps de se mettre tous à poil sur Canal B. Bon Jouir, émission 138, c'est parti.
Bonjour.
Sur Canal B. Dans l'émission de la semaine dernière, que je vous invite très chaleureusement à aller retrouver en podcast sur canalb.fr et aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, vous trouverez tous les liens pour écouter cette émission si vous ne l'avez pas déjà fait. Eh bien, nous parlions avec l'association Penser les mots, représentée par Christelle et Laura. Nous parlions prévention aux violences sexistes et sexuelles. Nous parlions éducation de nos enfants à aux questions intimes, c'est-à-dire découverte de son propre corps, savoir nommer toutes les parties de son corps, etc. Savoir aussi poser des mots sur le consentement, sur les questions de genre, etc. Puisque Penser les mots est une association qui milite beaucoup en faveur de l'éducation pour éviter justement eh bien, que nous sombrions par un défaut de connaissance des choses liées au sexe, que nous sombrions donc dans des tabous qui font de la violence et qui génèrent évidemment énormément de difficultés dans les rapports humains après. Donc ça, c'était le programme de la semaine dernière. Le programme de ce soir, eh bien, on va aller explorer une autre facette de ces questions-là et qui est celle de la question du désir. C'est-à-dire que peut-être, déjà, s'agit-il de savoir nommer son désir, de savoir le ressentir ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est quelque chose que, à différents moments de notre vie, nous explorons de façon différente ? Est-ce que nous sommes toutes et tous raccord avec l'état de nos désirs ou de notre désir au moment où nous discutons ce soir ? Voilà un point qu'il serait peut-être important de faire, à la fois eh bien, pour peut-être... poser des mots et donc être rassuré, à la fois aussi pour pouvoir partager les questions que cela pourrait susciter en nous et pour pouvoir les poser à des gens, soit des personnes ressources, soit à des proches avec qui on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir échanger sur toutes ces questions du désir. Car le désir, on peut imaginer que si l'on est en couple, c'est une chose évidente. Bien sûr, je t'aime, donc je te désire. Ouais, est-ce réellement cela ? Est-ce ainsi que cela se passe au quotidien, tous les jours ? Est-ce ainsi que toutes les années de votre vie de couple, vous avez pu expérimenter tout le temps, tous les jours, à chaque minute du désir pour votre partenaire ? Bon, je pense que ça n'est pas si fréquent que cela. Le désir est quelque chose d'assez mouvant, à la fois par rapport à ce que nous pouvons traverser, nous, vivre, aux difficultés financières, aux difficultés de travail, à des choses, voilà... d'ordre intime qui peuvent venir percuter comme ça nos désirs. Et puis, c'est aussi peut-être des événements de la vie qui vont faire que on va avoir un désir qui va changer. On va se rendre compte que ce que l'on désirait avant n'est plus exactement ce que l'on désire maintenant et que voilà, c'est une chose vivante comme nous, finalement. Et peut-être est-il bon de faire le point sur son désir. Alors après cette très longue introduction, voici là où nous allons en venir ce soir dans Bon Jouir. Nous allons questionner notre rapport, votre rapport au désir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le désir ?
Désir, je dirais que ça évoque quelque chose que tu n'as pas et que tu souhaites avoir. Une tension entre, ouais, entre un état présent et ce vers quoi tu voudrais aller.
Parce que ça dépend, en fait, il est assez multiforme. Souvent, on ne désire pas les mêmes personnes de la même façon. Il y en a, c'est plus érotique. Il y en a, c'est différent, c'est plus psychique. Ça varie vraiment, ça peut aller de la tête au cœur, au sexe, c'est pas homogène.
Ces voix que vous venez d'entendre ouvrent le spectacle Désir pluriel, un seul en scène avec objet sur le désir féminin créé, interprété par Anne-Laure Patti. Anne-Laure Patti a eu le souhait, l'urgence peut-être aussi, le besoin de montrer à quel point le désir pouvait être polymorphe, à quel point aussi il pouvait être transgressif, libre, évolutif, mais aussi souvent joyeux et parfois bloqué. Et c'est par une belle après-midi de juin, dans son jardin, avec une petite brise et le chant des oiseaux, qu'Anne-Laure va nous raconter tout le process qui aura mené à la création de ce spectacle et pourquoi, pour elle, il est si important de parler du désir et d'ouvrir les questionnements, la parole, de libérer la parole sur la question du désir féminin aujourd'hui.
Alors, c'est un projet qui a débuté en début 2020, voire peut-être fin 2019. À mon arrivée à Rennes, donc j'arrivais depuis Paris où j'avais effectué une formation de comédienne, et en fait en arrivant sur Rennes, fraîchement arrivée, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les possibilités de continuer cette formation, enfin voilà, de continuer à construire un petit peu ma formation. Et effectivement, j'ai pas forcément trouvé ce qui me correspondait, sachant que, enfin voilà, ayant plus de 35 ans, c'est compliqué de se former à cet âge-là, en fait, en tous les cas sur Rennes. Et j'ai rencontré à cette époque une femme, Marie-Laure, qui avait un peu le même profil que moi, à savoir formation de comédienne, mais ayant décidé d'avoir continué son activité à côté dans le social. Et en fait, on s'est rencontrés autour de ça, de cette envie de continuer à faire du théâtre de manière, on va dire, de qualité ou pro, tout en ayant un projet à côté. Et en fait, ce qui nous réunissait, c'était l'envie de parler. Enfin, il y avait plusieurs sujets, mais il y avait un sujet qu'on partageait, c'était l'envie de parler autour du désir féminin. Et le deuxième, c'était, comme on n'avait pas de velléité d'écrire, enfin voilà, d'appétence en tous les cas pour ça, c'était de partir d'une enquête documentaire. Donc d'aller voir des femmes, de leur poser des questions autour de leur désir et d'en faire un spectacle. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Au départ, on avait des ambitions assez vastes, on va dire. On avait envie de faire les choses, enfin, on voyait les choses en grand, hein, comme pour tous les projets. De toute façon, il vaut mieux partir en grand pour réduire après, je trouve. On avait cette envie d'aller voir, enfin voilà, de faire de l'intergénérationnel, de faire du polyculturel, de s'adresser vraiment à plein de femmes différentes. Donc on voulait aller dans les EHPAD, on voulait aller voir le planning familial, etc., parler de notre projet. Donc comme je dis, c'était fin 2019, début 2020, là-dessus il y a eu le Covid. Donc en fait on a dû voir nos ambitions à la baisse, c'est-à-dire, enfin à la baisse, en tous les cas différent, avec un biais qui était plus noté, à savoir qu'effectivement on n'a pas pu avoir accès à tous ces lieux-là, et qu'au final on a enquêté, enfin on a réalisé des entretiens avec 26 femmes, si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus si c'est en nous comptant, parce que du coup il y a aussi notre rapport au désir dedans. Donc entre 20, on va dire entre 25 et 27. Et donc du coup on a fait avec le plus simple, à savoir les personnes qui étaient proches de nous, donc du coup pas mal de femmes rennaises, mais pas que, et de notre de notre cercle, de nos réseaux proches, donc plutôt des femmes qui nous ressemblaient, de, on va dire, catégorie sociale professionnelle un peu élevée, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des rencontres d'été, des rencontres qu'on avait fait au bord de la route, voilà. Okay. Un petit peu.
Et alors, quelles étaient les questions?
Ouais. Alors en fait, on a commencé, on savait qu'on voulait parler de sujet, alors pas pour les mêmes raisons. Ça c'est un point que je voulais quand même préciser, puisqu'aujourd'hui le spectacle je continue seule en fait, donc forcément il a une peau qui me ressemble plus. Moi là, vraiment l'intention, la raison du spectacle, c'était vraiment de parler de mon rapport au désir qui avait vraiment énormément évolué avec la maternité. La maternité, pour moi, ça a vraiment été un tsunami en termes d'émotions, de ressentis, de vécu, avec des choses chouettes, mais avec des choses aussi très très dures, et vraiment des choses que j'avais du mal à partager, parce que c'était des choses qui n'étaient pas nommables en fait, tout simplement. Donc heureusement, moi à l'époque j'étais suivie en thérapie, donc j'avais un espace pour partager ça, mais c'est vrai que j'avais du mal à en parler en extérieur, parce que c'était un peu l'omerta. Alors il y avait plusieurs choses, mais des ressentis autour de ma fille, des choses qui étaient un petit peu difficiles dans les émotions qui surgissait, et puis après la reconquête de mon désir qui avait aussi beaucoup bougé, parce que, enfin, c'est ce que je mets un petit peu en avant dans le spectacle, mais pour moi ça a été une boîte noire pendant des années, ce sujet du désir, et puis d'un coup ça s'ouvrait, et puis ça a évolué, ça a beaucoup évolué, j'ai beaucoup cheminé, on va dire, sur les, à partir de la, enfin j'ai eu ma première fille à 31 ans, à partir de la trentaine, ça a énormément évolué jusqu'à aujourd'hui, on va dire, où je me sens beaucoup plus à l'aise avec mes désirs au pluriel, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'image, pas de son au début, quoi. Donc, il y avait vraiment un gros cheminement, et ça, c'est vraiment ce que je mets en avant aussi dans le spectacle, même si pour le moment, je le nomme pas au jeu, ma parole est noyée dans celle des autres aussi pour me protéger, mais ça, c'est quelque chose qui potentiellement peut évoluer. Et donc en fait on a beaucoup, enfin moi je sais que la manière que j'ai quand j'aborde un sujet, que j'ai quelque chose, une petite qui me tracasse, qui me travaille, je lis beaucoup, donc on a lu pas mal de références qu'on nous avait recommandées sur le désir, donc voilà, sans en avoir lu une centaine, hein, on a lu à deux on va dire une dizaine de bouquins, c'était le confinement donc ça tombait bien. On a écouté aussi des podcasts, on a vu des films, enfin voilà, on a partagé un peu toutes les références qu'on avait, et on avait trois thèmes que nous on voulait vraiment traiter. Le premier, c'était tout ce qui est émotion, vécu, ressenti autour du désir, vraiment pour donner de la chair au spectacle. Voilà, c'est quoi les sensations, qu'est-ce que ça fait sur la peau, dans le corps, dans le cœur, etc. Donc on avait toute une palette de vocabulaire, de couleurs, de formes autour de ça. Ensuite, on voulait traiter du transgénérationnel, donc à savoir comment ça avait été partagé, ce sujet dans la famille. Alors, aussi sur la sexualité plus générale, mais vraiment aussi sur juste l'aspect du désir, c'est quoi le désir, qu'est-ce que ta mère t'a dit, qu'est-ce que tes grands-parents t'ont partagé comme histoire, anecdote aussi marrante. Et le troisième sujet, c'était plutôt la transgression. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met derrière la transgression, c'est quoi être transgressif par rapport à son désir. Et puis voilà, il y avait quelques petites questions aussi autour de l'évolution dans la société, voilà, pour ouvrir un peu, comme sur une dissertation, ouvrir un peu comment ça évolue sur la société. Voilà, et à partir de, on a croisé en fait nos lectures, enfin voilà, toutes nos références avec ces trois thèmes, on va dire, et ça, on a décliné ça autour de 20-25 questions, et donc on a réalisé des entretiens avec les femmes, c'était entre, le plus court, il fait peut-être 45 minutes, le plus long, 2 heures. Donc en fait, on avait une quarantaine d'heures de pistes d'enregistrement, donc on avait fait à peu près, c'était 13 et 13, hein, entre nous deux, on a tout réécouté ensemble, on a tout écrit, enfin vraiment les moments qui nous marquaient, on a tout retranscrit aussi, donc on avait vraiment une espèce de grosse matrice de textes, voilà, donc on avait un gros document Word de 50 pages qui reprenait tous les textes, et après bah, on a taillé, on va dire, dans la matière pour faire ressortir les points saillants, ce qui nous parlait le plus, et avoir ce qu'on appelle une matrice, et en fait cette matrice a servi ensuite à la mise en scène.
Et alors maintenant tu dis que tu es seule?
Oui, ouais, alors bah, le projet a beaucoup évolué, donc on a commencé en 2020 à deux, bah, évidemment il se passe plein de choses dans la vie, hein, donc c'est sûr que c'est l'évolution et les étapes d'un projet. On a avancé à deux, donc sur toute cette partie là de retranscription du texte. Ensuite on s'est retrouvé un petit peu bloqué dans le sens où bah, en fait on était comédiennes toutes les deux, mais on n'avait jamais fait de mise en scène. Donc en fait on se disait, bon bah voilà, ok, on a un super fichier Word avec toutes nos idées, comment on fait un spectacle de ça? Donc à ce moment-là, il y a une troisième personne qui est arrivée, Laetitia, qui était une amie de Paris, qui est comédienne aussi, et qui est arrivée sur Rennes, Laetitia Casanova, qui nous a mis en scène, qui a été regard extérieur dans un premier temps sur notre travail. Là-dessus, on a une première sortie de résidence, première étape de travail. Et ensuite, bah, ça a aussi amené le fait que du coup, ça, le travail qui était amené n'était pas forcément, correspondait pas à ce que tout le monde voulait. On a eu un premier retour spectateur. C'est ce qu'on appelle un crash test, en fait, dans le milieu du spectacle. Et c'est vrai que bah, du coup, on se prend une foule de retours. Donc moi, j'étais vraiment dans cette posture de bah, on prend ce qui nous intéresse et on continue d'avancer. Puis en fait, il y a eu la vie, hein, c'est que moi, j'avais eu ma deuxième fille. Marie-Laure était enceinte. Bah, Laetitia, elle avait son activité qui continue à avancer. Donc tout ça a fait qu'au bout d'un moment, bah, moi, j'ai dit, j'ai passé déjà beaucoup de temps sur le texte, la réécriture. Moi, je veux mettre en scène et je veux avancer.
Vous êtes au cœur de Bon Jouir, toujours sur Canal B et toujours en compagnie d'Anne-Laure Paty, comédienne.
Enfin, en fait, je parle vraiment de nécessité parce que ce spectacle, il parle beaucoup aussi de moi et enfin, évidemment des autres femmes, mais il y avait vraiment le besoin d'aller jusqu'au bout du projet et j'avais plus la force de revenir en arrière, de retriturer la matière. À partir de juillet dernier, à partir de septembre, j'ai commencé à travailler avec Leslie Evrard, qui est aujourd'hui mon regard / metteuse en scène, qui a fait aussi un peu de réécriture, enfin de dramaturgie du texte. Et Leslie, elle est comédienne sur Rennes depuis très longtemps et elle fait du théâtre d'objets. Et en fait, c'est aussi un des retours que j'ai eu sur la première présentation. Alors le théâtre d'objets, c'est assez développé en Bretagne et sur Rennes, il y a beaucoup de compagnies. Et c'est vrai que comme je donnais la voix à la parole de femme, finalement le théâtre d'objets s'y prêtait pas mal parce que du coup, les objets représentaient ces différents corps, ces différentes voix, ces différents désirs. Et donc à partir de septembre de l'année dernière, on a commencé à travailler à la mise en scène sur les textes que j'avais choisis pour faire une mise en scène avec du théâtre d'objets. Voilà. Et on était du coup tout ce temps-là en résidence à la maison de quartier de Villejean, qui depuis le départ a hébergé le projet de manière très généreuse en nous prêtant, enfin mettant à disposition une salle de répétition, puis le théâtre, voilà, quand on en avait besoin. Donc vraiment des conditions de travail professionnelles, hein, on va dire, avec un régisseur. À partir de septembre, j'ai travaillé une fois par semaine avec Leslie. Donc pour le coup, c'est devenu beaucoup plus engageant aussi pour moi parce que c'est quelqu'un que je payais du coup. Enfin, c'était du bénévolat avant et du coup, moi, je me suis mis à la payer. Moi, j'ai réalisé toute la scénographie du projet. Et de septembre à mars, on a travaillé donc une fois par semaine à peu près pour aboutir à la première qui a eu lieu le 9 mars dernier à la maison de quartier de Villejean.
D'accord.
Voilà, dans le cadre de la programmation du coup de la ville de Rennes sur la journée du 8 mars quoi.
Comment ça s'est passé?
C'était un moment assez puissant, intense et fort pour moi parce que alors moi j'avais déjà réalisé des courts-métrages, j'avais joué dans des pièces, mais là c'est vraiment un projet très très personnel. C'est un seul en scène, hein, donc je suis toute seule en scène. Enfin voilà, c'est quand même 4 ans de ma vie, enfin 3 ans ou plus, quasiment 4 ans de projet, de process personnel qui passait par là. Donc c'était vraiment un moment très fort, mais j'étais prête. Donc ça, c'est ça qui était chouette, c'est qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup répété, on a fait beaucoup de filage. Donc évidemment, il y avait de l'émotion, il y avait de l'intensité, mais disons que j'avais réussi, j'avais pas de trou de texte, ça déroulait, je me sentais à l'aise. Donc évidemment, il y avait du track, hein, donc ça bloque un peu les émotions. Mais globalement, c'est toujours difficile de parler de son travail, mais en tout cas, les retours étaient vraiment plutôt bons. Il y avait entre 40 et 45 personnes qui étaient présentes. Principalement, alors il y avait des amis qui avaient participé au projet, il y avait des professionnels, parce que j'avais réussi à faire venir des professionnels, et il y avait des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui étaient venus via la programmation de la ville de Rennes. Donc ça, c'était chouette, c'était vraiment le bon mix. On a fait un petit pot après, puis un retour, enfin un spectateur. Et globalement, le retour que j'ai eu, c'est que c'était qualitatif, c'était poétique, c'était délicat, on en avait envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Sachant qu'aussi ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a l'entrée dans le spectacle, c'est un espèce de bain sonore, puisqu'en fait, on a gardé une partie des enregistrements qui avaient été réalisés avec les femmes, avec leur accord, pour lancer le spectacle. En fait, donc on entend ces femmes qui ont partagé leur vécu du désir, et ce qui permet de lancer le spectacle. Puis ensuite, le spectacle dure à peu près 35 minutes. Donc là, c'est moi qui suis en scène et puis on finit. Voilà, sachant que moi, ce que j'envisage, comme c'est un spectacle qui est assez court, c'est d'avoir soit un temps d'échange, cercle de parole, tu vois, derrière, soit une conférence, un débat. Enfin voilà, comme c'est vraiment un spectacle court, je l'imagine comme une première capsule qui amène à une deuxième capsule qui est plutôt un temps soit informel, soit construit. Pourquoi pas un atelier autour du désir, hein, c'est possible aussi. Mais parce que pour moi, voilà, ce qui était important, c'est que ça ouvre des portes, c'est que, en fait, ce que j'aurais peut-être eu besoin à un moment donné, c'est justement d'entendre ces autres ressentis, partages autour du désir. C'est vrai que je trouve autour de la sexualité, autour de ces sujets-là, on a finalement pas mal de choses. Sur le désir, j'avais entendu des choses, mais j'avais pas tout entendu. Et c'est vrai qu'il y a des choses que moi j'ai vécues, que je partage dans le spectacle, qui n'avaient pas été entendues avant. Et du coup, voilà, je me dis que c'est une première porte. Si ça peut faire écho avec quelqu'un et donner envie à la personne ensuite d'échanger ou de faire un travail, enfin en tout cas de dire que... on n'est pas seul et qu'il y a plein de choses qui existent, quoi.
Toujours au cœur de cet entretien avec Anne-Laure Paty et au sujet de son spectacle « Désir pluriel au féminin », pluriel d'ailleurs. Alors justement, la question que je lui ai posée ensuite, c'est « Mais où en sommes-nous actuellement du rapport, de notre rapport au désir ?»
Donc en fait, plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans ces questionnements, donc c'est aussi très chouette. Et en même temps, il y a pas mal de... Il y a un espèce de ce qu'on appelle de backlash, de retour, où effectivement, plus les mœurs s'ouvrent, plus aussi, effectivement, il y a des gens qui se rigidifient autour de ça. Et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aider dans un sens, mais aussi peuvent être assez violents, quoi. Et c'est vrai que moi, par exemple, aussi par rapport à mon projet, à mon vécu, je sais que je me protège pas mal parce que j'ai beaucoup peur de ça aussi, du retour qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me fait assez. C'est pas que ça m'angoisse parce que pour le moment, il se passe rien, mais comme je suis quelqu'un, j'ai envie de me protéger de ça, quoi. Et moi, j'ai pas vécu de violence ou de retour agressif par rapport à mon projet, donc je pourrais pas trop en parler, mais je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui vivent des choses qui peuvent être assez, assez violentes, qui sont pas forcément comprises, donc ouais, c'est un espèce de... Après, je pense que c'est l'évolution, je lisais un bouquin récemment, il y a une BD sur la sexualité qui raconte l'histoire de la sexualité qui est assez conséquente. j'ai plus le nom, je crois que
c'est l'histoire de la sexualité,
ouais,
non ?
Ouais, c'est ça, de, je sais plus quel est l'éditeur.
Bruno,
ouais.
C'est aux arènes.
Aux arènes, voilà, c'est ça. Et effectivement, on voit que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des avancées et puis des retours assez violents en arrière. Et là, on en est un petit peu là où, effectivement, avec le milieu queer, tout ça, il y a des choses très très chouettes qui se passent. Et en même temps, il y a les mouvements masculinistes qui sont sur la place. Et voilà, moi, encore une fois, ça me touche pas directement, mais de ce que j'entends, il n'y a pas que du positif, quoi. Donc, faut toujours être vigilant, se protéger et puis militer, quoi. Militer en se disant que rien, en fait, rien n'est jamais acquis, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête.
Est-ce que ça a permis peut-être une forme de libération un peu de la parole chez des gens qui auraient pu voir ce spectacle? Partage un peu avec toi.
Oui, alors j'en ai eu quelques-uns. J'ai une femme qui m'a remerciée, qui m'a dit qu'elle était partie à la fin du spectacle et qu'elle n'avait pas pu rester parce qu'en fait elle était très très émue, qu'elle avait pleuré, que ça l'avait énormément touchée, que ça avait beaucoup beaucoup résonné avec elle. Et après, qui a voulu témoigner du coup dans le cadre des entretiens. Puisqu'effectivement j'ai refait quelques sessions d'entretien pour parce que les pistes que j'avais n'étaient pas forcément très bonnes, donc du coup on a refait un apéro entretien et cette personne a voulu témoigner de son rapport au désir, qui était quelque chose en plus que j'avais pas forcément traité dans cet angle là dans le spectacle, qui était le rapport de l'évolution de son désir dans le cadre d'une maladie en fait. Voilà, donc, et ça c'est vrai qu'elle voilà, prenait des traitements hormonaux. Bon, sur les entretiens qu'on a vus au démarrage on n'avait pas ça, donc du coup j'avais pas du tout traité cet angle là. Et donc du coup, elle a voulu témoigner, donc ça m'a fait des pistes en plus. Pareil, j'ai une autre amie qui avait témoigné dans un premier temps, mais c'est vrai que c'était un peu au début de notre relation d'amitié, qui a vu le spectacle et qui a dit « Ok, je veux retémoigner à nouveau parce que je vais te partager des choses que j'ai pas dit avant, parce que c'est des choses qui sont pas forcément très cool, enfin très faciles, et qu'il fallait une certaine dose d'intimité pour pouvoir l'entendre. » Mais elle m'a dit « Je veux qu'on l'entende dans les audios parce que c'est aussi quelque chose qu'il y a pas dans le spectacle et que je souhaite qu'on entende, quoi. » Donc donc ça a un peu libéré la parole. Après, je l'ai encore très peu joué, donc c'est les quelques retours que j'ai eus. Mais évidemment, moi, mon souhait le plus cher, ce serait que... En tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que vraiment, ça donne envie de parler. C'est-à-dire que les gens qui... Alors, pas tous, hein, parce que je pense que ça dépend aussi des personnalités. J'ai des gens qui m'ont dit « Bon, non, moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle et j'ai besoin que ça processe. » Et ensuite, on peut en parler. Je suis trop fragile en sortant, voilà. Et il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah non, mais moi, j'avais juste envie qu'on prenne un coup et un verre et puis on s'assoit autour de la table et on discute. » Donc tout ça, ça me fait réfléchir sur justement quel process je peux apporter après le spectacle. J'aimerais bien faciliter un temps d'échange, justement, ou réunir les gens dans des petits groupes, alors en mixité ou non mixité, en fonction des besoins aussi de chacun, mais voilà, moi j'aimerais en tout cas qu'il y ait le choix, et que voilà, je repars de la grille, la manière dont je le vois, c'est repartir de la grille d'entretien, c'est-à-dire partager quelques grandes idées générales, questions pour les gens, juste pour donner à manger, enfin pour lancer un peu le débat, mais c'est pas nécessaire, et après, moi faciliter un peu les échanges, et me balader entre les différents cercles de 4-5 personnes pour juste être sûr que le cadre de bienveillance, de respect soit entretenu, quoi, et que les gens puissent partager ce qu'ils ont envie, que ça soit reçu et que ça soit bien reçu, parce que évidemment autour du désir il y a des choses faciles, il y a des choses plus dures, donc sachant que moi j'ai pas de formation là-dessus pour le moment, ne serait-ce que je suis facilitatrice, donc je sais amener la parole, ça c'est des choses qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, même dans des grands groupes, j'arrive à instaurer un cadre. Moi, c'est quelque chose que je voudrais potentiellement proposer après le spectacle. Et puis, quitte à proposer aux gens de se revoir après. Enfin, voilà, y a plusieurs manières de le faire. Mais en tout cas, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est me dire, ouais, moi, ça m'a débloqué, ou ça m'a donné envie d'en parler, ou ça m'a appris des choses. Enfin, c'est vraiment comme ça que je vois ce projet.
Et alors, c'est quand, la prochaine fois, où on peut justement le voir, nous ça...
Eh bien, la prochaine fois, il y a deux dates à venir à court terme. Je joue le 29 juin, donc le jeudi 29 juin, donc dans 10 jours au Panama Bar. Donc, c'est dans le quartier Sainte-Thérèse à Rennes. Je joue à 20h30, donc les gens peuvent arriver bien avant, mais on essaie de commencer pour 20h30, donc il y a une salle. Et je joue le lendemain, le 30, donc chez une amie qui organise une guinguette chez elle. Et donc du coup c'est dans le quartier Bricchini. Et ça, il faut me contacter pour avoir les informations, parce que c'est chez quelqu'un, donc plutôt par messagerie sur les réseaux sociaux si les gens sont intéressés. Je suis présente sur Insta, donc en tapant Anne Lorpati ou Désir Pluriel, on tombe, je sais pas si tu pourras le mettre sur les infos sur la page. Mais voilà, et puis du coup toutes les informations liées au projet, je les partage donc sur Instagram ou sur Facebook. Il y aura, j'ai pas de date après en juillet pour le moment, mais je suis pas sûre que j'en aurai. Et après, a priori, il y aura trois dates en septembre, donc normalement je joue au festival festival Les Remous, c'est un festival féministe entre Rennes et Nantes. D'accord. Alors j'ai plus encore le nom du village, mais c'est dans la campagne, donc c'est le week-end du 8-9 septembre. Et je joue également chez trois particuliers en septembre, voilà, les dates sont pas encore calées.
D'accord, voilà. Mais c'est pas mal ça, cette formule de jouer chez les particuliers.
Ouais, ouais, ouais.
Pour le côté un peu intime et
c'est ça.
Favorisant peut-être de l'échange.
C'est un spectacle, ce qu'on appelle un spectacle autonome.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut jouer en dehors des théâtres. Ça, c'était une volonté. Alors, c'était aussi question de praticité, parce que évidemment, comme moi, c'est mon premier spectacle, je suis pas connue. Bah, forcément, jouer dans des théâtres, c'est très très compliqué. Hein. C'est un milieu qui est quand même pas facile à percer. Donc, évidemment, je vais quand même solliciter ces gens. Je vais voir les médiathèques, je vais voir les villes, je vais voir plein d'espaces, on va dire un peu plus institutionnels. Mais l'idée aussi, c'était d'avoir une version autonome pour pouvoir jouer dans des lieux plus alternatifs. Donc, à savoir les bars, les associations, les particuliers, justement les lieux qui sont pas des théâtres. Donc en fait, moi j'ai mes projos, j'ai ma sono, et en fait normalement j'ai besoin de idéalement 5 mètres par 3, donc c'est pas tout petit non plus, hein. Je peux m'adapter à 4 par 3 ou voilà en plus petit, mais ça demande une petite adaptation de la mise en scène. Mais l'idée, c'est qu'effectivement je peux jouer dans un sous-sol aménagé, je peux jouer dans un jardin, justement pour, c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est assez intime. C'est une petite jauge aussi, hein, je l'ai pas dit, mais c'est comme c'est du théâtre d'objet, je suis limitée à 40-50 personnes maximum, parce que s'il y a trop de gens, après on voit plus. Donc tout ça fait qu'effectivement ça peut être un petit cocon qui est chouette chez quelqu'un, avec voilà, début de soirée spectacle et puis ensuite temps d'échange autour du spectacle, quoi. Donc voilà, moi j'essaye de jouer, alors comme j'ai une vie de famille, c'est vrai que je pars pas en tournée très loin, mais j'essaye de jouer sur Rennes métropole, 35, même Bretagne, hein, évidemment il n'y a pas de difficulté, mais voilà, l'idée c'est aussi que le spectacle soit autoporteur, et que je compte beaucoup sur le bouche à oreille pour que les gens en parlent et aient envie aussi d'organiser ça chez eux ou dans leur bar préféré. Voilà.
Très bien.
Mais je trouve ça génial que l'émission existe, que tu laisses la parole à des hommes et des femmes sur ces sujets. Et oui, je trouve que ça doit continuer, qu'on doit en parler, et que ça soit via mon projet ou via d'autres, la parole puisse être donnée sur ces sujets qui sont des sujets très chouettes, mais qui peuvent être aussi des sujets un peu bloqués à certains moments. Et vraiment, moi, ce que je mets, enfin, l'intention du spectacle, c'est vraiment de dire que le désir, c'est polymorphe. Et surtout, c'est évolutif, et que du coup, ça évolue beaucoup, 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 beaucoup dans la vie avec les différentes étapes. Et que même si c'est dur pour les personnes, et ça peut être dur pour vous ou pour moi à certains moments, bah, c'est important de se dire que c'est qu'une étape, et que le plus important, c'est de partager, d'en parler, de communiquer, parce que ça peut devenir très chouette, quoi.
Ouais, c'est un beau message pour finir. Mmh. Merci beaucoup, Anna.
Bonjour.
Sur Canal B. Voilà, c'était donc l'entretien avec Anne-Laure Paty au sujet de son spectacle Désir pluriel, qui va être, comme elle l'a indiqué, prochainement joué à Rennes. Je vous invite à aller la découvrir le 29 juin au Panama Bar à 20h30. Et puis le 30 juin aussi chez l'habitant dans le quartier Bréquigny. Si vous avez envie de venir pour cette représentation, il faut contacter Anne-Laure Paty sur son compte Insta par exemple. Voilà, et vous aurez toutes les infos et tous les détails. Vous avez pu donc découvrir ce que c'est que de monter un spectacle quand on est une jeune femme, quand on veut aborder ces questions qui sont vraiment de l'ordre de l'intimité totale, avec la phase de doute que l'on a, avec aussi le besoin peut-être de trouver une forme d'ensemble choral autour de soi pour ne pas se retrouver trop seule à porter cette parole, et essayer de trouver comment atteindre l'universel à partir d'une question d'abord très intime et très personnelle. Vous avez pu ainsi comme ça découvrir un peu techniquement ce que c'est aussi que le théâtre, monter un spectacle, les étapes de création, rencontrer quelqu'un qui nous fait avancer jusqu'à un certain point, et puis après aller voir quelqu'un d'autre ou accueillir quelqu'un d'autre dans le projet pour nous faire avancer sur d'autres points. Voilà, tout ça c'est un long cheminement. La création est un long cheminement, et c'est un peu la même chose pour le désir finalement, non? Qu'en pensez-vous?
son navire, son roi, mon empire, c'est moi. J'irai vivre.
C'était Thalys Kerr avec un titre intitulé bien sûr Désir. Mais oui, c'est toujours bien vu la programmation musicale dans Bonjouir.
Bonjouir.
Sur Canal B.
Il est maintenant temps, comme tous les dimanches soirs, de retrouver Benjamin Bechler avec sa librairie Foutrac. Allez, mettez-vous bien à l'aise, c'est le moment peut-être plaisir personnel, c'est le moment où vous pouvez, peut-être en découvrant des auteurs, des textes, des situations érotiques, peut-être affiner ce qui peut déclencher chez vous le désir de la masturbation par exemple, le désir de coller votre main le long ou contre votre sexe et de voir un petit peu ce qui se passe quand vous laissez vos doigts jouer comme ça, de façon juste instinctive, de façon inopinée, en écoutant d'une oreille à moitié distraite la voix chaude et grave de Benjamin Bechler. Alors, c'est à vous.
Daniel Lange se réveille avec la queue toute raide. Une demi-heure plus tard, alors qu'il achève son petit déjeuner, elle darde toujours sous le coton léger du short qui constitue son seul vêtement. Lange a une excuse, il distingue parfaitement dans l'encadrement d'une fenêtre de l'immeuble d'en face, une jeune femme installée là depuis peu. Tout juste vêtue d'une nuisette, elle nettoie sa vaisselle tout en se frottant sans la moindre retenue au rebord de l'évier où plongent ses mains. La voisine s'agite jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, elle faufile une main sous la nuisette et se finisse ainsi, se tortillant sur elle-même au moment où la jouissance la prend. Elle s'aperçoit alors qu'il la regarde. Visiblement, ça la dérange, puisqu'elle lui adresse un doigt d'honneur et disparaît dans sa salle de bain. Comme elle, dont le tissu léger de la nuisette se plaque à son corps sous l'effet de la transpiration, Daniel sue à grosses gouttes. À l'extérieur, le thermomètre affiche déjà 32 degrés et il fait à peine moins chaud dans son appartement. La canicule, c'est connu, influe sur la psyché jusqu'à rendre les gens un peu dingos quand ils ne le deviennent pas complètement. Les modalités de ces désordres comportementaux peuvent toutefois varier du tout au tout. Nombre d'individus se font très agressifs vis-à-vis de leur entourage, parfois littéralement asociaux. Beaucoup d'autres, mais dans un état d'esprit assez similaire, sombrent dans un état d'apathie qui les liquéfie au point que leur cerveau se déconnecte. Le plus souvent, leur corps subit un processus similaire et se refuse à tout contact avec autre chose que de l'eau froide. Entre deux passages sous la douche, cela ne désire que de longues siestes sans rêve. Avec Au réveil, nouvel arrosage à l'eau froide, laquelle, après une brève phase de réconfort, ne fait cependant que renforcer la réactivité négative de l'épiderme à la chaleur. Côté sexualité, on observe aussi des réactions très diverses à la touffeur ambiante. Inutile d'évoquer le sujet à propos des personnes qui, encaissant mal les fortes températures, se répugnent alors à l'idée du moindre contact physique avec autrui. N'y pense même pas, chérie, fait bien trop chaud. Qu'est-ce qu'on est mal ? À l'inverse, certains individus subissent une excitation tout aussi difficile à contrôler. C'est le cas pour Daniel Lange que ses proches, des femmes pour l'essentiel, désignent le plus souvent sous son diminutif, Dan. Plus forte est la chaleur, plus impérieux devient son besoin de contacts intimes. Fantasme de chair chaude comme la braise et clapotis à queue des corps inondés de sueur qui se frottent l'un à l'autre. On baise paresseusement, engourdi par la chaleur qui ralentit les mouvements, mais la lenteur devient elle-même une source de volupté, car plus c'est long, plus c'est bon. Alors on prend le temps pour tout, à commencer par les caresses des mains qui explorent pleins et déliés, en continuant par celles de la bouche et de la langue qui collectent la sueur salée et insistent là où elle se fait plus abondante, entre les bourrelets d'un ventre replet, au-dessous des seins, au creux des aisselles et de l'aine, dans les poils pubiens parfumés de sécrétions génitales. Puis viennent les préliminaires qui donnent envie de toujours plus, à commencer par un coït. D'abord retenu et comme dénué d'énergie, mais qui se fait ensuite fiévreux et intense et se couronne d'un orgasme que le partenaire prend soin de prolonger et qui vous fait plonger dans un univers où les notions de temps et d'espace finissent par disparaître. Après ça, la bouche vient remercier la chatte qui se fait encore plus fondante sous les lapements, le berlingot qui en fait autant au creux des lèvres. Parfois, le cul de la partenaire se tend pour quémander à son tour le contact des lèvres, les patins, l'enfilage par là que la femme encourage par des cris aigus entrecoupés de halètements jouissifs, tandis qu'elle-même câline le gland du mec dans le paradis qui se cache au fond de sa gorge. Voilà à quoi songe Daniel ce matin-là. Lorsqu'il se réveille, la queue raide comme un gourdin, avale son café matinal en matant sa voisine, puis passe sous la douche, bandant de plus belle. Des fantasmes érotiques occupent toutes ses pensées. Il n'y peut rien. Aussi éveillé soit-il, des rêves aux images un peu plus explicites hantent son esprit. Ces fantasmagories issues de l'inconscient le conduisent à rechercher la compagnie de partenaires qui partagent la même attirance. Lécher une peau moite et salée, lui prodiguer les suçons là où elle est la plus sensible, glisser sa langue au fond d'une vulve liquoreuse à souhait pour en laper les nectars, téter un capuchon clitoridien bien saillant tandis qu'un ventre agité par la houle du plaisir, se soulève au contact du visage et que la bouche de la partenaire traite au fond de sa gorge son gland intumescent. That's real good.
Take it.
Sur Canal B.
Yeah. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. Moi j'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te dessapes dans mon pied. J'aime bien quand on est deux, yeah. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te caresse.
Et je sais que t'aimes pas trop quand je m'arrête. J'aime bien quand je tire tes cheveux bien dans la rue. J'aime bien tout ce que tu fais. J'aime bien ta bouche sur le bout de ma haie. Je sais que t'aimes bien le goût de ma haie. Et tu kiffes quand je sur tes haies. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien ce que tu représentes, j'fais des efforts. J'aime bien tes seins, tes sèvres, j'aime bien tes formes. J'aime bien ta face, ta bouche, j'aime bien ton corps. J't'aime bien. J'aime bien écouter ce son quand je pense à Watt. Je sais que t'aimes bien ce que je fais avec mes watts. Fais ta hip tant qu'après tu me rejoins. On roule, on baise, on roule des joints. Déshabille-toi, c'est plus tard la romance. On fait l'amour, après on recommence. Avec toi c'est fou ce que j'aime le sexe. Retourne-toi, mets-toi sur le texte. Tu parles pas noir, tu me prends jamais la tête. On le fait sans gêne, on le fait sans latex. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te touche. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te couche. J'aime bien le matin ou juste après la douche. J'aime quand tu cries avec mes doigts dans ta bouche. J'aime bien te regarder, je sais que tu simules jamais. J'aime bien quand on finit en simultané. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. Yeah. Yeah.
Et c'était cette fois-ci Josman avec le titre « J'aime bien ». Nous accueillons maintenant la rubrique de Chloé intitulée « Au bord des lèvres ». Je vous en rappelle le principe, je lui donne un mot et en retour, Chloé nous écrit un texte.
Ravissant, ravissement que le mot désir. Alors je sais pas vous, mais moi je pense instantanément à la chanson « Désir, désir » de Laurent Voulzy et Véronique Jeannot. Non ? Oh bah si, c'est toujours, toujours hein, qui rime avec « ou, ou ». Bon, du coup, ça marche. Bon, cette chose-là, il faut que tu devines. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Ouh, ouh. Et mon tout fait des souvenirs. Ouais, bah c'est nickel Miguel, ça. C'est super pas du tout mélancolique pour un début d'été. Nous, on veut du caliente, Chloé, d'accord hein, du frémissement, bébé, du toi et moi, déhanché, embrasé. Bon, bah d'accord, ok, oui. Remarque, à l'heure où nous pénétrons allègrement dans l'été, nous pouvons, non sans indécence, plonger dans le mood d'une sieste aux persiennes semi-closes, à des retrouvailles, je sais pas moi, à l'ombre d'un cyprès, à un after sur la plage éclairée de la grande lune de juillet, les pieds dans le sable et le cul rosi par le soleil de l'après-midi ou par la fessée de Gigi. Ouais, 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 on veut exposer notre libido aux UV, hein, sans précaution, ouais, épancher nos fantasmes avec de la bonne graisse à traire sous les rayons qu'on espère. Désirer. Pouah, franchement, c'est pas une aspiration tellement agréable, ça, grisante, un peu palpitante. Et puis c'est gratuit. Bah oui, c'est permis, promis, ouais, allez-y. Hein. Prenez une feuille de papier et un crayon de bois. Ouais, j'ai dit crayon de bois, ouais, je suis cohérente avec mon attrait pour vous le dire. Alors tu vas faire quoi? Tu prends de quoi noter donc. Et tu inscris tes désirs qui t'arrivent en tête, au cœur, au corps, au fur et à mesure de l'été, et plus si affinité. Et alors attendez, parce que on peut aisément se faire contaminer par l'effronterie fantasque hein, d'Agathe et son esprit perdu pour la chose. Mais si tu désires, je sais pas moi, dessiner avec de la peinture à l'eau et manger une burrata à la truffe, c'est aussi tout à fait le sujet. Hein. On n'est pas obligé de parler cul tout le temps du temps, hein. Même si c'est conciliable en fait, parce que le body art et la porn faute. Non, on a dit, ça suffit, tout ne tourne pas autour du cui, 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 voilà par exemple, prendre le temps d'écouter les oiseaux. Vous faire caresser par des vagues venant se casser sur vos orteils. Écoutez votre musique préférée dans une tenue que vous adorez porter. Voilà, notez toutes ces petites, grandes et simples choses que vous pouvez, pourquoi pas, attention, étape 2, vous offrir. Bah, parce que oui, quand on se pose 5 ou 50 minutes, étant donné qu'on a, imaginons qu'on a un peu de temps, bon bref, devant nos désirs, bah, il y a grande chance pour que quelques-uns soient à portée de nos possibles. Alors, on peut prendre ça pour un exercice de développement personnel. Eh bien, nous ne jugeons pas, voilà. Accueillons, parce que c'est l'été, que c'est pourquoi pas les vacances, en tout cas. C'est un temps qui défile un petit peu plus chaleureusement que les autres. dans lequel on peut s'enrouler avec soi et ce qui vient nous titiller un peu partout dans le cœur, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Car on a dit oui, Voulzy assimile désir et plaisir. Et on a dit, Voulzy c'est la vie. Non, non, on l'a pas dit. Bah, il faudra alors se quitter. Peut-être pour toujours. Oublier cette plage et nos baisers. Ok, stop Chloé. Je vous laisse avec cette chronique musique exercice pratique pour vous qui avez pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Et je cite juste pour terminer Catherine Pancol qui a écrit « Le désir est volatile, imprévisible. Sinon, ce ne serait plus des désirs, mais de la routine. » Et voilà, comme je ne vous souhaite aucune routine, si ce n'est celle de nous retrouver chaque dimanche, ben, désirez, mais farouchement, chers auditeurices, parce que ça fait du bien, tout simplement.
Voici la deuxième partie de la librairie Foutrac de Benjamin Bechler. Au menu ce soir encore, Canicule de Chris Villa, publié aux éditions Média 1000. Oh.
À 27 ans, Dan dispose déjà d'une expérience certaine en matière de jeu sexuel. Plusieurs années en arrière, il a décidé une fois pour toutes qu'il n'y a rien de meilleur dans la vie que le plaisir de jouir et de faire. En cette matinée torride de début juillet, sa philosophie personnelle se mue cependant en obsession et prend des allures de torture. Comme en ce moment où il ne dispose d'aucune partenaire attitrée et que la fille de l'appartement d'en face ne veut visiblement pas de lui. Dan décide de fuir la canicule autant que possible afin d'échapper aux tourments qu'elle génère en lui. Ses visions lascives qui s'imposent à son esprit. La veille, il a choisi l'option sieste pour tenter de s'en libérer, mais n'a pu fermer l'œil sans que surgissent sur l'écran de ses paupières des silhouettes féminines qui n'ont fait qu'aggraver son état. Visage et corps lui ont paru familiers, même s'il a la certitude de ne jamais les avoir vus dans la vie éveillée. Ce vendredi matin, après plusieurs jours où la température a largement dépassé les 30 degrés, Dan se met donc en quête d'un soupçon de fraîcheur, en s'offrant une virée au bois de Vincennes. Des abords du canal Saint-Martin où il réside, le bus 46 permet d'y accéder directement. Il en descendra à la station Porte Dorée, située aux abords de l'entrée du bois. Une manière de fuir l'instinct sexuel qui prédomine en lui, mais Daniel ne voit pas d'autre solution pour échapper à son mal-être. En arrivant à la station de bus, l'ange n'a pas de chance. C'est en tout cas ce qu'il se dit sur le moment. Ne pouvant traverser la rue à temps pour cause de feu vert et de voitures qui déboulent de part et d'autre, il voit le 46 lui démarrer sous le nez. Il va s'asseoir sous l'abribus avec, à en croire l'indicateur d'horaire, la perspective de devoir patienter 19 minutes. Inconvénient supplémentaire, l'arrivée de deux femmes âgées l'incite à leur céder les places assises, la troisième étant déjà occupée. Ces deux-là, du genre bourgeois qu'il déteste, ne le remercient même pas. Le jeune homme écoute un instant leur conversation. Elles aussi, et comme beaucoup d'autres, fuient la chaleur et espèrent trouver un peu de répit sous les arbres du bois. Le souci, c'est qu'il va falloir supporter la promiscuité dans ce 46 qui pourrait bien arriver déjà surchargé de voyageurs. Le pessimisme des deux femmes semble justifié. 10 minutes plus tard, l'abribus se trouve encombré d'une douzaine de personnes. On s'y entasse pour bénéficier d'un peu d'ombre et échapper aux ardeurs du soleil qui surchauffe le bitume alentour. La météo promet une température extrême pour la suite de la journée. On attend 38 degrés dans l'après-midi. Du point de vue de l'ange, les 32 ou 33 de cette fin de matinée restent encore à peu près supportables. Mais les gens qui souffrent par temps chaud ont déjà matière à se plaindre. Certains, parmi ceux qui l'entourent, soupirent comme des âmes en peine et gémissent sur leur sort. Pour eux, un séjour en enfer doit ressembler à ce qu'ils endurent. L'ange attend, avec sous les yeux un journal gratuit qu'il feint de lire. Son esprit se remet à vagabonder. Le présent s'efface au profit des souvenirs de cet été si particulier, celui de ses 15 ans. Champagne, 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 champagne Daniel les a fêtés en juin. Son père, séparé de sa mère depuis plusieurs années, l'a invité à passer 3 semaines de vacances à Ibiza avec lui et Carmen, sa nouvelle compagne. Musicien de studio, le père de Dan y réside à l'année. C'est un type du genre hippie non repenti et sur ce point, Carmen lui ressemble. Parfumé patchouli et vêtu la plupart du temps d'une robe dont le coton léger devient à peu près transparent quand sa silhouette se découpe à contre-jour, elle se teint en auburn avec une crinière tout en bouclette qui cascade sur ses épaules. Mais en vrai, elle est brune. Dan s'en est aperçu les fois où ils sont allés prendre des bains de mer et où, sous prétexte de faire sécher sa peau au soleil, Carmen s'est allongée à poil sur sa serviette de bain, faisant mine de lire un bouquin et n'hésitant pas, les cuisses à demi ouvertes, à exhiber son abricot surmonté d'une étroite houppette noire. De temps à autre, comme sans y penser, elle abaisse ses lunettes de soleil pour le dévisager avec un petit sourire aux lèvres. Et quand elle les remonte, il lui semble qu'elle l'envisage avec encore plus d'attention. Elle est du genre à aimer les galipettes plus que tout et ne s'en cache pas. Plusieurs fois que le père de Daniel soit présent ou non, elle a abordé le thème de la sexualité avec son beau-fils, lors de conversations qui se voulaient anodines sans l'être vraiment. Je trouve hallucinant que l'âge moyen des premiers rapports se situe toujours autour de 18 ans. Perso, j'ai vécu ça dès l'âge de 14 ans, après avoir déjà dû me soulager seul, sitôt que j'en ai ressenti le besoin, bien avant la puberté. Dan, je suppose que comme tous les garçons de ton âge, il t'arrive de te masturber ? La réponse allait de soi, et Daniel s'est contenté d'opiner. Il n'a jamais été du genre bavard. Une aventure avec Carmen ne lui aurait pas déplu si elle n'avait pas été sa belle-mère. Mais en garçon bien éduqué, il a pris soin pendant tout le temps de leur cohabitation d'ignorer l'intérêt un peu trop marqué qu'elle manifestait à son égard. Elle ne cachait pas son attirance pour les jeunes, garçons ou filles, car elle s'avouait bisexuelle et affirmait ouvertement sa nostalgie du paradis perdu qu'elle était devenue à ses yeux l'époque de la libération sexuelle des années 60 et 70.
Et c'est ainsi que Bon Jouir s'achève pour ce soir et pour ce mois de juin. J'espère que vous avez passé un doux moment en notre compagnie. Je vous invite à rester à l'antenne de Canal B pour écouter les programmes de la nuit. Je vous invite aussi peut-être à prolonger ce petit moment introspectif en allant traîner dans les rayons des librairies, dans les rayons des bibliothèques ou bien sur Internet pour essayer de trouver des ouvrages, des films aussi. Il y a pas mal de documentaires sur la question du désir. C'est aussi intéressant peut-être de prolonger un peu cette réflexion, mais chacun fait comme il veut. En tout cas, pour nous, c'est terminé ce soir. On se retrouvera dimanche prochain. Et puis, on va se retrouver quand même tout l'été, puisque Bon Jouir va déclencher le plan chaleur et on vous concocte des petites émissions bien chaudes, bien sulfureuses, bien chaudes pour vos soirées d'été avec Bon Jouir. D'ici là, je vous souhaite de passer une foutrement belle semaine sur Canal B.